Vous êtes sur RTL.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Bienvenue dans Focus Dimanche. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end. Pendant une heure, on va revenir sur l'actualité de votre semaine avec les personnalités qui l'ont marqué. C'était l'un des plus grands espoirs du cinéma français. Le 19 janvier 2022, Gaspard Ulliel perdait la vie dans un accident de ski. Celle qui a partagé sa vie, la mère de son enfant, Gaëlle Pietri, publie un ouvrage bouleversant. À la radio, elle a choisi Focus Dimanche. Elle est mon invitée. Tous les cancers bientôt détectés par les ordinateurs et grâce à l'intelligence artificielle, c'est l'objectif de deux grandes chercheuses françaises que vous allez découvrir. Adoré par les plus jeunes, aimé par les plus âgés, Ahmed Silla, le comédien humoriste, fait l'unanimité. Comment un petit gamin d'une cité de Nantes est devenu la coqueluche de l'humour en France? Vous saurez tout. Une histoire incroyable dans Focus Dimanche, celle de Laurent Fraissinet. C'est l'un des plus grands joueurs d'échecs français. Il entraîne désormais le meilleur joueur du monde, le grand maître français, et mon invité en studio. Vous les croisez tous les jours, les gardiens et gardiennes, et pourtant vous ne connaissez pas cette profession méconnue, voire ignorée. Un livre raconte leur plus grand secret. Son auteur et une gardienne sont mes invités.
Focus Dimanche sur RTL.
C'était l'un des plus grands espoirs du cinéma français. Le 19 janvier 2022, Gaspard Ulliel perdait la vie dans un accident de ski. Celle qui a partagé sa vie, la mère de son enfant, Gaëlle Pietri, publie un ouvrage bouleversant, exceptionnel. À la radio, elle a choisi Focus Dimanche pour s'exprimer. Elle est mon invitée. Bonjour Gaëlle Pietri.
Bonjour Mohamed.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
M'accorder votre confiance. J'ai lu votre livre, Le temps de te dire adieu, chez Grasset. Je l'ai trouvé incroyable. J'ai trouvé bouleversant. Quand le malheur nous prend pour cible, il faut parvenir à se souvenir qu'on a goûté à la douce, à l'ineffable joie. Tu resteras mon plus beau voyage, abordé sans guide, les yeux fermés. Ta présence et ton absence convergent dans mon cœur. Je sais désormais que je pourrai toujours le trouver en moi. Ceci est à nous. C'est un testament, mais qui est vraiment, vraiment bouleversant et un livre magnifique pour votre fils. Orso, j'imagine, Gaëlle Pietri, la dureté pour vous d'avoir écrit ces lignes.
La dureté est aussi presque salvateur, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire, à prendre des notes juste après le décès accidentel de Gaspard. Et je crois que finalement, ça m'a fait énormément de bien d'écrire. Ça a été un refuge pour moi, la littérature et l'écriture. Aujourd'hui, c'est se replonger avec la sortie du livre dans tout ça. Mais le fait d'écrire m'a vraiment fait du bien. Ça a été comme une thérapie.
Je sais que c'est dur, Gaëlle Pietri, pour vous de parler. Oui. Vous me faites confiance, vous venez dans Focus Dimanche. C'est la première fois que vous vous exprimez à la radio depuis cet accident.
Tout court,
tout
déjà.
Court. Ouais.
Première radio.
Ouais, première radio. Vous dites que Gaspard Ulliel est mort deux fois.
Je dis ça parce que la première fois, c'était pour moi, j'ai ressenti ça comme une mort, c'était à la séparation. Finalement, cette séparation était comme une préparation à sa mort, car ça a été extrêmement violent. Mais effectivement, quand on vit vraiment un deuil, on se rend compte que ça n'avait absolument rien à voir avec une mort, même si j'étais effondrée à la séparation. Il n'y a que la mort qui coupe vraiment la vie en deux.
Vous pouvez être très fier de ce récit, d'une implacable honnêteté et surtout la distance que vous avez pour écrire ces lignes, parce que on vous accompagne dans votre récit, on vous accompagne aussi dans l'amour que vous portez pour Orso, votre fils. Mais vous faisiez quoi ce jour de janvier 2022?
Je me souviens qu'il faisait très beau. Je déjeunais avec une amie et je récupérais mon fils à l'école très tôt. Et à 16h, quand je l'ai récupéré à l'école, nous sommes rentrés à la maison et je me suis effondrée dans la salle de bain. Je le raconte dans mon livre, lorsque j'ai vu l'ami de Gaspard qui skiait avec lui le jour de l'accident. On s'est rendu compte que le moment où je m'effondre dans la salle de bain coïncidait avec le moment où il avait été percuté. Avec le recul, je me suis dit que c'était un signe. Et effectivement, en fait, je n'avais jamais ressenti une douleur comme ça. J'avais l'impression que j'accouchais et que par-dessus, on me transperçait de coups de couteau. Et j'avais vraiment l'impression d'accoucher. Et finalement, je me disais que c'était certainement parce que ce qui se passait de l'autre côté avec Gaspard, ce qui nous reliait... Et qui nous reliera à tout jamais, c'est notre enfant, celui que j'ai porté dans mon ventre.
Gaspard Ulliel était un skieur expérimenté. Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé sur cette piste de ski. Vous êtes toujours en colère?
Je pense que la colère s'apaise petit à petit. On ne saura vraiment jamais ce qui s'est passé. D'autant plus que l'ami avec qui il était bien plus au-dessus. Donc quand il est arrivé, il était déjà à terre, dans la neige. Comme je dis, je ne veux absolument pas en vouloir à ce skieur lituanien. Effectivement, je trouve ça un peu juste étrange qu'il n'ait pas donné signe de vie, parce que lui est vivant et en très bonne santé. Il est reparti, sans même envoyer un message aux parents de Gaspard ou essayer de prendre des nouvelles.
C'est vous qui avez dû annoncer à votre fils Orso le départ de son papa.
Oui.
J'imagine que ça a été une épreuve terrible.
C'est ce qui a été le plus compliqué. En fait, deux jours avant, on fêtait l'anniversaire d'Orso. Et de devoir apprendre à mon petit garçon que son papa n'est plus vivant, ça a été un cauchemar. Je l'ai fait en deux fois. Et à la première fois, je lui ai dit que son père avait eu un accident de ski. Alors il m'a dit, bon, c'est pas grave, il doit être dans le coma, il va se réveiller. Et le lendemain, je lui ai dit qu'en fait, il ne s'était pas réveillé, qu'il avait tapé trop fort à la tête. Et je pense que c'est la seule fois où Orso a pleuré. Et qu'il a compris qu'il ne reverrait pas son père.
Dans la foulée, vous racontez avec beaucoup de distance aussi et une sincérité très forte, c'est que c'était votre ancien compagnon,
oui.
Gaspard Ulliel. Il y a eu la séparation, le deuil, le drame, la mort. Et vous devez gérer tout ça. Vous devez gérer la gestion d'un enterrement, la gestion d'un après sans lui, la gestion d'un enfant. Et ça, c'est un double deuil.
Oui. Déjà, c'était très compliqué pour moi, cette place. Ma place qui était complètement bâtarde, ancienne compagne.
Oui. Il y a eu l'enterrement, une épreuve terrible pour vous aussi, et une épreuve aussi de voir les photos de votre fils, Orso, oui. En une des kiosques à Paris, des photos de paparazzi. Ça aussi, c'est une énorme épreuve pour vous.
Oui, c'est une énorme épreuve, parce qu'encore une fois, il n'a rien demandé. Se servir de son image en sortant des obsèques de son papa, j'ai trouvé ça assez dur, oui.
Gaspard Ulliel, je disais tout à l'heure que c'était l'un des plus grands espoirs du cinéma français, mais c'était pas un espoir, c'était un grand acteur reconnu, réputé, et un acteur qui avait été couronné, notamment par un César.
Le César, pour moi, c'est surtout quelque chose d'assez rassurant dans un environnement rempli de doutes. Hein. C'est un métier où on est constamment habité par le doute. Et voilà, c'est une marque de confiance qui rassure.
Il avait besoin d'être rassuré, Gaspard Ulliel, Gaël Pietri, dans ce monde du cinéma.
Il était à part dans le cinéma français. Il avait certainement besoin d'être rassuré. Il ne le disait pas.
C'est un homme qui vous a donné beaucoup d'amour, qui vous a donné un enfant, surtout, Orso. Aujourd'hui, 7 ans. Comment il va, Orso ?
Il va bien, il va mieux. Je crois que la première année a été très compliquée, avec toutes les premières fois sans son père pour la rentrée au CP, Noël, l'anniversaire, enfin, toutes ces premières fois. Donc, il y a eu, je pense, une première année beaucoup plus compliquée. Je pense que c'est la plus dure. Et maintenant, il est plus apaisé.
Ce livre, c'est des fragments de vie dans lesquels il pourra retrouver son père quand il le voudra. Plus tard, c'est un héritage que vous lui laissez. C'est un récit pour ne pas oublier, vous le dites à un moment. Il aura ses pages pour se construire, pour grandir et pour comprendre aussi qui était son père. C'est un héritage pour lui dire, Orso, tes parents se sont aimés plus que tout.
Oui, il était si jeune, 6 ans, et je voudrais lui dire justement... que ses parents se sont aimés, que c'est le fruit de l'amour et que ça, personne ne pourra lui enlever malgré tout.
C'est grâce à lui que vous avez tenu ?
Oui, c'est pour lui.
Il vous a donné aussi, du haut de ses 6 ans, beaucoup de choses ?
Beaucoup. Notre force, c'est notre enfant. Et en plus de ça, il a une personnalité assez géniale et il est très fort et il me donne beaucoup de force.
Il y a un passage dans le livre qui nous transperce quand il vous dit « Maman, tu partiras pas ?» Toi aussi.
C'est une question qu'il me pose régulièrement. C'est normal. Il a peur. Il a perdu son père du jour au lendemain dans un accident. Donc effectivement, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Je ne peux pas lui dire que ça ne peut pas arriver.
Ouais.
Mais j'essaye de le rassurer autrement.
Même avec votre fils, vous êtes très sincère. Dans le livre, vous prenez, je parlais de distance tout à l'heure, vous révélez pas tout sur votre vie avec Gaspard Ulliel parce que vous avez envie de protéger votre vie personnelle, mais comme Gaspard Ulliel protégeait sa vie personnelle.
Oui, après c'est un personnage public, il a fait des grands films, et donc il y a quand même une partie de lui qu'il montrait, tout en gardant secret le principal, et je crois que c'est ce que j'ai voulu aussi dans ce livre, et aussi rendre Gaspard à ses mystères.
Est-ce qu'on peut faire, Gaël Pietri, le deuil de l'être qu'on a aimé, le temps de lui dire adieu ?
J'ai voulu, dans ce livre, prendre le temps de lui parler, de repasser un peu de temps avec cet être perdu. Je ne sais pas, il est assez encore tôt et je pense que de toute manière, on n'oubliera jamais l'être aimé perdu.
L'être aimé, il a légué des choses à son fils aussi, Orso, qui a envie de travailler dans le cinéma.
Ouais. Au début, c'était acteur. C'était tout compliqué. Aujourd'hui, il veut être réalisateur. Il est passionné, ça peut changer. Mais évidemment, comme je le dis aussi dans le livre, c'est que encore plus que tout, son papa est devenu le modèle à suivre.
Vous en avez voulu au paparazzi, Gaëlle ?
Je pense que chacun fait son métier, c'est pas ces journaux que je dois retenir.
Plusieurs mois après le départ de Gaspard Ulliel, le temps de te dire adieu, c'est aux éditions Grasset. J'avais une question, et sans doute la question la plus importante qui me tenait à cœur aujourd'hui, en ce dimanche, parce que les auditrices et les auditeurs de Focus Dimanche découvrent vos témoignages puissants et extrêmement dignes. On vous pose pas la question, en fait. Comment vous allez, vous, Gaël Pietri? On parle d'Orso, on parle beaucoup de Gaspard Ulliel, mais vous, comment vous allez?
Ça va mieux aussi. C'est encore une fois, c'est Orso ma force. Ce livre m'a fait énormément de bien. J'ai trouvé un refuge dans l'écriture et maintenant il faut revenir à la vie, profiter des moments car la vie est courte, elle peut être très courte.
Des drames parfois naissent des espoirs, c'est le temps de te dire adieu, c'est aux éditions Grasset. Votre livre est bouleversant, vous avez une plume incroyable. Je ne sais pas si cette plume se nourrit uniquement de la douleur. Et c'est de cette douleur qu'est sorti ce livre et ce récit incroyable. Merci de m'avoir fait confiance, Gaëlle Pietri. Merci d'avoir fait confiance à RTL. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec Orso.
Merci, Mohamed. Merci beaucoup.
Et il a de la chance de vous avoir. Et ce livre est un joli testament, un testament d'une implacable honnêteté sur le chagrin indicible et la rédemption par l'écriture. Et j'adore cette phrase, quand le malheur nous prend pour cible, il faut parvenir à se souvenir qu'on a goûté à la douce, à l'ineffable joie. C'est un formidable récit et merci encore. Merci de nous l'avoir partagé.
Merci.
Merci beaucoup, Gaëlle Pietri.
Merci.
Tous les cancers bientôt détectés et soignés grâce à l'intelligence artificielle. Les médecins parlent d'une révolution scientifique. Deux chercheuses sont mes invitées sur RTL. Ne bougez pas.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Et si l'intelligence artificielle pouvait bientôt soigner des cancers, les détecter aussi? Les soignants sont optimistes sur cette avancée technologique. L'intelligence artificielle, appelée l'IA, est avant tout déployée pour dépister et analyser les cancers du sein. Mais dans quelques semaines, dans quelques mois, cela pourrait tout changer dans la vie. Dans Focus Dimanche, je reçois deux médecins qui l'utilisent dans leur service. Le docteur Magali Lacroix-Triqui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pathologiste à Gustave Roussy et bonjour docteur Sarah Watson, vous êtes chercheuse à l'Institut Curie.
Bonjour.
Pourquoi l'intelligence artificielle, c'est une révolution? On en entend beaucoup parler ces dernières semaines, mais pourquoi ça pourrait tout changer avec les cancers?
Alors l'intelligence artificielle, en fait, c'est faire par une machine, en l'occurrence un ordinateur, le travail de l'intelligence humaine. Donc notre travail d'analyse sur, par exemple, un cas d'une patiente, c'est d'essayer de faire participer une machine pour nous aider à avancer dans le diagnostic.
Ça veut dire qu'en clair, on prend une patiente et on met tous les symptômes qu'elle peut avoir dans un ordinateur et avec lui, on essaye de travailler.
Exactement. Nous, donc, à Gustave Roussy, ça fait à peu près 4 ans qu'on a commencé à travailler sur ce sujet, notamment dans le cancer du sein.
Ouais.
Donc, moi, je suis pathologiste. Donc, mon travail au quotidien, c'est de faire le diagnostic de cancer. Donc, moi, je suis spécialisée dans le cancer du sein. Donc, mon travail, c'est d'analyser les prélèvements qui sont faits chez les patients, de les regarder au microscope, de dire si c'est un cancer. Et si c'est un cancer, de dire quel type de cancer c'est et comment il faut le traiter. Et en fait, depuis quelques années, on sait maintenant que ces lames de tissu, on peut les digitaliser, les transformer en données numériques.
Oui.
Et c'est ça qu'on peut donner ensuite à des machines pour travailler à trouver de nouveaux moyens de prédire certaines, par exemple, l'évolution des patientes ou la réponse à des traitements.
Docteur Sarah Watson, vous, à l'Institut Curie, vous avez une autre technique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Absolument. Nous, à l'Institut Curie, notre outil d'intelligence artificielle qu'on a développé, on lui a appris à reconnaître des données génétiques, des données moléculaires, pour essayer de comprendre les gènes qui sont altérés dans les cancers et pouvoir à la fois mieux les classer, mieux les diagnostiquer et aussi faire bénéficier aux patients de traitements un petit peu plus personnalisés. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée.
Et ça, c'est une petite révolution. On va revenir dans quelques secondes avec vous, docteur Lacroix-Triqui, sur cette troisième révolution qu'est l'intelligence artificielle. Je voudrais juste revenir sur un élément, docteur Sarah Watson, à l'Institut Curie. Vous avez été au cœur de l'actualité ces derniers jours, notamment grâce à un patient, grâce au travail que vous avez effectué avec un patient. Vous ne connaissiez pas l'origine de son cancer. Personne n'arrivait à trouver un diagnostic précis. Et grâce aux informations que vous avez données à l'intelligence artificielle et à un ordinateur, l'ordinateur a trouvé d'où venait le cancer.
Effectivement, on a eu comme ça des succès extrêmement importants pour ces cancers dont on ne connaît pas l'origine. Dans le cas de ce patient, il s'était présenté avec des métastases dans le cerveau. Il était impossible sur les analyses standards de savoir d'où étaient venues ces métastases. Et effectivement, ce patient a pu bénéficier de l'outil que nous avons développé, et l'outil a rendu, avec un score extrêmement élevé, l'outil a rendu un diagnostic de cancer du rein. Et ça, c'est vrai que c'était très intéressant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les cancers, quand on ne connaît pas leur origine, on essaye d'utiliser des traitements de chimiothérapie assez larges, si vous voulez, qui puissent cibler un maximum d'origines possibles. Et les cancers du rein sont très résistants à ce type de traitement et bénéficient à l'inverse de traitements complètement différents.
Quand j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit, mais c'est dingue, c'est une révolution et ça va nous changer la vie. L'humain n'arrivait pas à trouver de réponse à ce cancer. Ce patient était face à vous malade, parfois esselé, il se posait des questions. Et là, l'intelligence artificielle a dit, c'est un cancer du rein.
Ouais, c'est sûr que c'est des choses. Alors aujourd'hui, sur les premiers cas de patients qui ont pu en bénéficier, au début, on trouvait effectivement que c'était incroyable. Et je dirais qu'on s'est presque habitué au cours des derniers mois à la performance de la machine. Et je pense que dans les mois, les années qui vont venir, on va être de plus en plus au quotidien secondé par ce type d'outils dans notre pratique courante.
Docteur Lacroix-Triqui, vous parlez de troisième révolution pour l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est une énorme révolution scientifique? Pourquoi ça va changer nos vies?
Parce que c'est un outil, une nouvelle technologie, une technologie innovante qui va prendre dans notre quotidien une place aussi importante pour pouvoir répondre à des questions très précises. Par exemple, dans le cancer du poumon, est-ce que avec une simple lame histologique que j'utilise moi pour mon diagnostic, est-ce qu'avec cette simple lame, je peux prédire le profil moléculaire sans avoir à faire toute l'analyse moléculaire pour pouvoir ensuite guider le traitement? C'est ce type de démarche qu'on veut envisager.
Et vous soignez à Curie déjà des cancers du sein. Grâce à l'intelligence artificielle, vous avez détecté plusieurs catégories de cancers. Grâce à vos informations, on soigne dans des hôpitaux des cancers du sein. C'est ça, et c'est déjà le cas là, actuellement.
Oui, alors bien sûr, on continue de travailler. Ce qu'il faut aussi comprendre dans le domaine de la santé, c'est que l'intelligence artificielle, c'est donc un outil médical, un dispositif médical, donc du coup, qui va être très très encadré en termes de développement pour la sécurité de l'outil, avec plein de validations à différentes étapes. Et que quand on découvre un outil d'intelligence artificielle, alors comme nous on l'a fait à Gustave Roussy et le docteur Watson a fait exactement la même démarche, on commence par le valider dans une série de patients qu'on a dans nos hôpitaux, et puis après on valide les performances de cet outil dans d'autres hôpitaux pour qu'il puisse être généralisé à d'autres populations. Toutes ces étapes de validation, c'est vraiment crucial dans le développement.
Vous en êtes où là d'ailleurs, dans ces étapes de validation?
Alors là, nous, pour l'outil qu'on développe dans le cancer du sein, donc on a déjà fait la validation en interne et la validation dans une cohorte nationale. Donc on est en train d'approcher maintenant une validation dans le cadre d'essais cliniques, puisque c'est la validation ultime, pour pouvoir passer ensuite l'outil vraiment en outil diagnostique de routine.
Eh bien, ça me permet de poser cette question au docteur Sarah Watson. Ça veut dire que là, le docteur Lacroix-Triqui nous explique que pour le cancer du sein, on va bientôt, on l'espère, passer un essai clinique pour l'expliquer à nos auditeurs et nos auditrices sur RTL. L'essai clinique, c'est-à-dire qu'on va l'expérimenter sur des femmes qui ont le cancer du sein. Docteur Watson, Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on est tous bousculés à un moment ou un autre dans notre vie par quelqu'un de notre famille qui est victime d'un cancer, qui est victime d'un deuil. C'est une souffrance encore très importante pour les Français qui nous écoutent, le cancer. Est-ce qu'on va pouvoir soigner dans les 10, 15, 20 ans qui arrivent la majorité des cancers? Je sais, vous allez peut-être le dire, qu'il est encore difficile, les tests sur le cancer du pancréas sont très 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 compliqués, mais est-ce qu'on va pouvoir soigner le cancer du côlon, du sein, du poumon dans les prochaines années?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au cours des 20 dernières années, il y a eu des avancées majeures hein, dans les traitements du cancer. Aujourd'hui, on soigne de mieux en mieux les cancers. Pour autant, le cancer reste une des premières causes de mortalité en France et dans le monde. Donc, on sait qu'on a encore beaucoup de travail. Ce qui est sûr, c'est que je dirais que le développement de ces outils, en particulier de ces outils d'IA, pour nous, c'est formidable parce qu'on a l'impression que on a de plus en plus d'armes pour pouvoir à la fois mieux diagnostiquer, mieux décider les traitements qui vont être efficaces. Parce que auparavant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des traitements, mais on ne savait pas à l'avance quel patient allait en bénéficier ou pas. Donc on essayait le premier traitement, puis on voyait bien si ça marchait ou pas. Et puis si ça ne marchait pas, on changeait de traitement. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une médecine qui est prédictive, c'est-à-dire que dès le moment du diagnostic, on essaye d'identifier les patients qui vont bénéficier du bon traitement au bon moment. Ceci avec le but de à la fois être plus efficace, mais aussi d'éviter des traitements qui seraient toxiques et inutiles. Ouais. Et donc on est dans une médecine qui est de plus en plus, je dirais, précise, adaptée à chaque patient. Et ça, c'est quelque chose de formidable pour, bien sûr, traiter mieux, mais aussi faire en sorte que les patients aient une qualité de vie qui soit meilleure tout au long de leur maladie. Donc il y a des maladies qui, pour lesquelles, en particulier, je pense à certains types de cancers, comme les cancers du poumon, où il y a eu des nouveaux médicaments qui ont complètement révolutionné le pronostic de ces malades-là. Maintenant, c'est pas encore tous les patients. Il y a encore beaucoup trop de patients qui, malheureusement, chaque année, sont atteints de cancers qui vont avoir une évolution défavorable qui vont mourir de leur maladie. Donc on a encore beaucoup de travail, mais ce qui est sûr, c'est que les choses s'améliorent et on les voit s'améliorer de jour en jour.
Je vous repose la question pour vous deux, et ça sera ma dernière question, docteur Lacroix-Triqui et docteur Watson. Est-ce qu'on est bientôt... Les Français nous écoutent et ils ont envie d'avoir de l'espoir. Vous nous comprenez, vous me comprenez. Est-ce qu'il y a des cancers, docteur Lacroix-Triqui, auxquels on est avancé, auxquels on se dit, allez, peut-être que dans 15 ans, 20 ans, ça y est, on pourra définitivement les soigner. J'entends parler, par exemple, du cancer du poumon, où dans 20 ans, 25 ans, on a beaucoup d'espoir pour qu'on trouve un remède et des remèdes pour répondre à ce cancer.
Ah oui, je pense qu'on n'est pas loin, hein, parce que le cancer du sein...
Ah, vous êtes un peu plus avancé que le docteur ouais. Watson.
Non, c'est mon côté très optimiste, mais c'est vrai que quand on regarde l'évolution de la prise en charge et du pronostic des cancers du sein, il y a des formes de cancer du sein qu'on guérit.
Ouais.
C'est-à-dire les patientes, on les suit les 5 premières années, puis les 10 premières années, puis après on leur dit... Vous êtes guéri, ça y est, vous pouvez tourner la page. Donc, il y a vraiment, je pense que oui, maintenant, avec le développement des traitements, la personnalisation, tous les outils technologiques dont on dispose au moment du diagnostic, on n'est pas loin d'arriver à cette note d'espoir. Et l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui doit nous faire peur. Hein. Ouais. C'est des machines, c'est des ordinateurs, mais c'est en tout cas dans le milieu médical, c'est complètement encadré par des médecins, par des chercheurs et par des médecins. Les résultats d'un test d'intelligence artificielle sont au final validés par un médecin, validés ouais. ou critiqués. Hein. Donc si l'ordinateur se trompe et qu'on le voit de façon évidente, on ne va pas en tenir compte. Donc il y a vraiment une prise en main de l'humain et ça c'est plutôt rassurant puisqu'on sait qu'on ne traite pas des chiffres, on ne traite pas des nombres, on traite des hommes et des femmes.
Et j'ai une grande pensée en ce dimanche pour un de mes collègues, Mathieu Lartaud, le journaliste commentateur de Stade 2, atteint d'un cancer qui va subir un acte chirurgical lourd dans les prochaines semaines et qui a démarré sa chimiothérapie. Et on pense fort à lui parce que c'est quelqu'un qui est apprécié par les Français et qui se combat et qui parle pour les autres. Il est atteint d'un synovialosarcome. Mathieu, on le dit, on le répète, bats-toi et tu vas battre le cancer. Et c'est un message qu'il faut répéter à toutes ces familles qui subissent cette épreuve. Et grâce à vous, docteur Sarah Watson, grâce à vous, docteur Magali Lacroix-Triqui, Sophie. On avance dans cette bataille, dans cette guerre contre le cancer
rien,
et on lâche rien. Merci à vous deux, vous êtes là. Je le dis souvent, mais il y a des gens qui font la fierté de la France et vous faites la fierté de la France. Alors un grand merci à vous deux et un grand merci d'avoir été les invités de Focus Dimanche sur RTL. Bonne journée
merci
à vous
beaucoup.
Et bon dimanche.
Merci
à
vous.
Vous l'adorez, il fait l'unanimité, c'est la nouvelle star de l'humour en France. Il cartonne au cinéma. Ahmed Silla est mon invité dans Focus Dimanche, c'est dans quelques secondes.
Focus Dimanche sur RTL. Focus Dimanche sur RTL.
Il est adoré par les plus jeunes, aimé par les plus âgés. Ahmed Silla, le comédien humoriste, fait l'unanimité. Comment un petit gamin d'une cité de Nantes est devenu la coqueluche de l'humour en France? Il est avec nous, il est mon invité dans Focus Dimanche sur RTL. Bonjour Ahmed Silla.
Bonjour Mohamed, comment ça va?
Ça va super Ahmed, je suis ravi de vous avoir ce dimanche parce que il y a un film au cinéma qui marche plutôt bien depuis mercredi. Un film qui a un bouche à oreille exceptionnel que j'ai vu, Notre tout petit mariage. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà le scénario de ce film qui est complètement loufoque?
Eh bien écoutez, déjà merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui font le déplacement et qui vont découvrir cette histoire. C'est un film que j'aime beaucoup, dont je suis très fier. L'histoire elle est toute simple. Max et Lou, c'est un jeune couple dynamique, jeune, pétillant, qui sont fous amoureux et qui vont décider pour une raison particulière. Donc il faudra aller voir le film pour savoir de quoi on parle. Et pour une raison particulière, ils vont décider de se marier. Bon, Max, lui, il est pas très pour le mariage. Et donc, il décide de faire un mariage en tout petit comité. Sauf que il a des témoins qui sont un tout petit peu cons. Et donc, du coup, ça va devenir une espèce de grosse fête qui part un peu en cacahuète. Et
un
on
petit
va
peu
les suivre,
en cacahuète En grosse cacahuète. Hein.
En grosse cacahuète. Et en fait, on va suivre ce couple à l'intérieur de cette fête invraisemblable.
Ce film, il fait du bien. Je l'ai vu au cinéma. Ce film, il nous donne envie d'aller se marier, tout d'abord. Mais franchement, sans nos copains, hein, parce que là, ça part complètement en vrille. Ce film-là, c'est un film pour les familles. On est dimanche, on vient de finir le déjeuner. Il y a quelques jours, on avait Philippe Lachaud dans Focus Dimanche, il était avec nous, et il nous disait maintenant, il faut faire des films pour les familles aussi, des films pour sourire et pour avoir du bonheur. Et c'est ça qu'on retrouve dans notre tout petit mariage, c'est l'envie de se retrouver, l'envie de passer un bon moment.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un film qui est fédérateur, qui est familial. On l'a vu en tournée d'avant-première. Il y avait des enfants de 6-7 ans, des personnes plus âgées. Et c'est beau de voir une salle comme ça. En plus, aujourd'hui, le cinéma repart bien, repart à la hausse. Les gens ressortent, les gens se redéplacent dans les cinémas. Et puis, c'est hyper important, ne serait-ce que pour la survie du cinéma. Donc, c'est non, c'est hyper agréable. C'est très encourageant pour la suite.
Ce film, il a un petit côté potion de bonheur, en fait. Il y a un petit côté, on va prendre un shoot de bonheur en ressortant. Il y a Camille Lou avec vous. Le casting est tellement drôle. Le film, il nous emmène dans un autre univers, celui des sketchs toutes les 30 secondes, des punchlines toutes les 30 secondes. Ça nous fait penser à Projet X, les films américains, Very Bad Trip. Ça, c'était important pour vous. C'est filmé d'ailleurs différemment, Ahmed Silla.
C'est ça, c'est un peu l'idée qu'on avait envie d'avoir autour de ce film. C'était de faire un film assez fou, notamment dans la manière de réaliser ce film. Frédéric Kering, il a décidé d'utiliser le found footage. Alors, c'est un mot qui paraît un peu gros comme ça. Mais en fait, la technique, elle est toute simple. C'est prendre des caméras, des iPhones, et qu'en fait la caméra devienne un personnage à part entière du film. C'est-à-dire que on a le droit de faire des regards caméra, ce qui fait qu'on peut s'adresser directement au spectateur. La personne dans la salle a l'impression d'être invitée au mariage, quoi.
Ahmed, on sait que c'est difficile actuellement pour les Français, que la vie elle est pas simple, il y a l'inflation, il y a encore des gens qui ont du mal à se nourrir et qui profitent de ces moments de bonheur au cinéma. On voit que les places parfois en France sont très chères. Ça fait du bien. Vous sentez que vous avez une vraie responsabilité, notamment dans les films que vous proposez aux Français pour leur donner un peu de bonheur dans cette situation difficile?
Ouais, complètement. Une de mes plus grandes fiertés quand je me déplace un peu partout en France, c'est quand les gens s'arrêtent et nous disent merci parce que bah voilà, pendant une heure, deux heures, une après-midi, on a un peu oublié notre quotidien, on est un peu passé à autre chose. Et je sais à quel point ça peut être difficile pour certains, pour avoir été moi aussi dans cette situation-là à quelques endroits de ma vie. Donc pour ça que je fais ce métier, moi c'est pour faire plaisir aux gens, pour les détendre, pour les amuser, pour les faire rêver, quoi.
Ouais, parce que vous avez connu ça, je pense notamment notamment le petit gamin de la cité de Nantes. Ce gamin, il a connu ça aussi. C'était quoi les idoles de jeunesse, ceux qui ont donné envie de faire ce métier-là, Ahmed?
Bah, c'est bizarre, mais moi, quand j'étais plus petit, je rêvais pas de faire ce métier.
Ouais.
Ce métier, j'avais l'impression qu'il était loin de nous, que c'était un peu inaccessible, tout ça. Donc, j'y n'y avais même pas réfléchi. C'est devenu un rêve aujourd'hui, dans le sens où je le travaille, c'est devenu ma passion. Je travaille énormément, tu le sais. Mais ouais, c'était loin de moi, quoi, à l'époque.
Vous considérez que vous avez une vraie responsabilité, parce que ces difficultés, vous les avez connues dans l'enfance. Vous savez que c'est pas simple. C'est des choses qui vous tiennent à cœur.
Moi, c'est des choses qui me tiennent à cœur. J'ai vraiment, vous savez, on grandit avec notre éducation, l'éducation ouais. de nos parents, et puis après on se forge notre caractère. Et j'ai un caractère qui baisse jamais les bras, ouais. qui va tout le temps de l'avant, qui ne se victimise jamais. Je vais tout le temps à l'affront. Quand on me dit c'est pas possible, je cherche toujours un moyen pour que ce soit possible. Donc ouais, j'ai cette responsabilité là. J'essaye de, quand je croise des plus jeunes que moi ou de n'importe quel milieu social qui me demande des conseils. Et tout ça, j'essaie toujours de leur dire travaille, travaille et amuse-toi.
Ahmed Silla, vous avez 33 ans, les jeunes de votre génération, on est de la même génération, hein, donc on ouais. peut le dire, quand on était plus jeune, quand on voulait faire du théâtre, du cinéma, on était fan d'Eddie Murphy, des stars américaines. Non, vous, c'était Louis de Funès, Raymond ouais. DeVos ou encore Coluche.
Exactement. C'est
en fait c'est surprenant à mettre quand même. Hein.
Non, c'est surprenant, mais j'en ai même un autre. J'ai Michel Courtemanche aussi.
Ouais, le Canadien.
En fait, Raymond DeVos. J'ai un souvenir avec ma mère posée dans le canapé le dimanche. On était captivés par sa puissance scénique, par son charisme, par son aura. C'est un mec qui maniait les mots comme personne. Et en fait, c'est les premières personnes qui m'ont fait rire parce que je commençais à regarder la télé très jeune.
Ouais.
Donc j'ai pas commencé à rire avec Jamel, Franck Dubosc. Ça, c'est venu après. En ouais. fait.
Mais Ahmed, il y a eu ces acteurs, ces chanteurs qui vous ont accompagné dans votre jeunesse aussi, parce que je pense aux chanteurs que vous avez repris dans vos imitations. Il y a eu Jamel Debbouze, parce que là, vous venez de citer Jamel Debbouze. Mais Jamel Debbouze, c'est une histoire incroyable, notamment au Jamel Comedy Club. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Elle est tordante, Ahmed.
Mais ouais. Non, c'est vrai que Jamel, ben, c'est devenu après mon tonton dans ce milieu-là. C'est devenu un des moteurs de ma carrière aussi.
Ouais.
Et c'est vrai que ça dure depuis maintenant très longtemps.
Mais pourquoi il y a une anecdote incroyable au Jamel Comedy Club?
C'est une anecdote incroyable. En fait, j'avais pas beaucoup d'argent quand j'étais plus jeune, et pour acheter une place de spectacle, bah, je pouvais pas ni demander à papa ni demander à maman. Donc, fallait que je trouve un moyen.
Ouais.
Et donc, comme je travaillais pas parce que j'étais encore à l'école, je me suis dit comment je peux faire pour être invité quoi qu'il arrive à son spectacle. Et j'ai eu l'idée de me faire passer pour le cabinet du maire à Nantes. J'ai appelé le Zénith de Nantes. Et je me suis fait passer pour le cabinet et j'ai obtenu des places.
Ça, c'est aussi une valeur que vous avez. Vous forcez le destin, c'est-à-dire que vous répétez travail, travail. Et je sais que vous êtes un bourreau de travail, vous enchaînez les scénarios. Et ce qui vous a fait connaître aussi Ahmed, c'est les sketchs On ne demande qu'à en rire avec Laurent Ruquier. Juste en quelques mots, comment il va Ahmed Sarko?
Écoutez, je vais vous le dire, Monsieur Boissy, vous savez, en France, il y a deux raisons sociales. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui subissent. Je fais partie de ceux qui font, Monsieur Boissy.
Et il a pas pris une ride, Ahmed Sarko. Ahmed, ces petits personnages qui nous ont fait tellement rire, j'avais une question plus profonde. Ces personnages qui nous ont fait tellement rire comme Ahmed Sarko, est-ce ouais. qu'à un moment, vous avez pas eu peur d'être cantonné dans ces rôles-là, un peu d'humoriste, de sketch, alors que vous avez une palette de jeux qui est assez incroyable, de L'Ascension à notre tout petit mariage, mais à d'autres ouais. films, L'Ascension, vous m'avez fait pleurer, moi, par exemple, dans L'Ascension, bon, après, moi, je suis quelqu'un d'émotif, mais il y a une palette assez incroyable. Est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment d'être cantonné dans ces rôles-là?
Non, on est pareil. Du fait que ça n'a jamais été mon rêve plus petit, j'ai pas peur de perdre quoi que ce soit.
Ouais.
Quand on réalise ses rêves, on a peur que ça s'arrête, on a peur que ça se termine, on a peur de perdre quelque chose. Moi, je l'ai jamais rêvé, je l'ai jamais projeté. Aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Donc je l'appréhende vraiment comme un métier, c'est-à-dire voilà, je me projette, je fais j'ai des objectifs, etc., etc. Donc en fait, j'ai rien à perdre. J'ai pas peur qu'on me cantonne. Peut-être que par exemple, à un moment de ma carrière, je faisais pas mal de rôles de femmes, de rôles féminins.
Ouais.
J'enchaînais vraiment les sketchs où je me déguisais en femme, etc. Tout. Je faisais pas mal de vidéos où j'étais très efféminé, etc., etc. Aujourd'hui, moins. Je peux aussi faire le campagnard, un personnage un peu plus rural, un mec de cité, un chef d'entreprise. Je vais pour kiffer.
Ahmed, vous représentez de belles valeurs. Je pense aussi à votre papa, qui est parti il y a quelques années et qui vous a donné des valeurs magnifiques. Et j'ai adoré une phrase que vous avez prononcée en interview sur la France, tout ce qu'elle vous a donné, ses valeurs, l'amour de la France que vous avez aussi pour notre pays. Vous êtes à moitié sénégalais, à moitié français, vous aimez vos deux pays et vous considérez par exemple que la France, j'ai adoré cette phrase, je ne peux pas dire que la France est raciste vu tout ce qu'elle a donné à ma famille. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique.
Bah c'est ça, j'ai ce tempérament-là de toujours me battre, de toujours aller de l'avant, de forcer le destin, de ne jamais baisser les bras quand on me dit c'est pas possible, ou de me victimiser, ou voilà, j'ai pas ce tempérament-là, c'est au-dessus de mes forces. Quand mes parents sont arrivés dans les années 80, eh ben ils ont pu travailler en France, ils ont profité des aides sociales. Ça veut pas dire qu'il faut occulter les problèmes qu'il peut y avoir en France,
ouais,
notamment de racisme, il faut pas les occulter. En fait, la France, c'est comme un membre de ma famille, elle fait des erreurs, mais plutôt que de l'enfoncer, j'essaye de l'aider pour qu'elle devienne meilleure.
Et vous ne l'enfoncez pas, vous la rendez meilleure, Ahmed. Vous faites partie de cette nouvelle génération d'artistes qui font du bien. Voilà, qu'on aime regarder à la télévision, qu'on aime regarder en spectacle, qu'on aime regarder au théâtre et qu'on aime regarder notamment dans notre tout petit mariage, réalisé par Frédéric Kering. C'est avec Camille Lou. Je l'ai vu au cinéma et je valide Ahmed Silla. Et ça nous a fait plaisir de vous écouter sur RTL aujourd'hui. Vous êtes chez
merci
vous, c'est votre
toi,
maison RTL.
Merci beaucoup.
Vous les croisez tous les jours, des femmes et des hommes gardiens d'immeubles, un métier particulier qui fait d'eux les observateurs de votre vie sociale. Ils connaissent tous vos secrets. Depuis 26 ans, Lucia est gardienne à Paris. Elle nous raconte son quotidien dans Focus Dimanche sur RTL. A tout de suite.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
13h, 14h.
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Ils sont les observateurs de la vie sociale. Vous les croisez tous les jours. Les gardiens d'immeubles, souvent décriés, jouent pourtant un rôle essentiel. Un métier particulier qui connaît la joie, mais aussi la dureté. Celui-ci est retracé dans un livre, Éloge des loges, aux éditions Autrement, qui nous emmène dans le monde des gardiens d'immeubles HLM de Paris. Son co-auteur, Jean-Michel Dijan, est mon invité dans Focus Dimanche. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Vous êtes accompagné de Lucia Texera. Bonjour Lucia.
Bonjour.
Vous êtes gardienne dans le 11e arrondissement de Paris. 26 ans que vous êtes gardienne d'immeuble. Vous connaissez la vie de tous les habitants de votre immeuble sur le bout des doigts, Lucia ?
Oui, presque.
Est-ce que vous pourriez changer de métier, Lucia d'ailleurs ?
Non, parce que j'aime beaucoup le contact avec les gens.
Ouais.
Je pense qu'on se sent utile aussi. Et moi, j'aime bien aider, rendre service. Chaque journée, elle est différente et ça me plaît beaucoup.
Jean-Michel Dijan, vous êtes le co-auteur de ce livre avec Aude de Tocqueville. L'éloge des loges, pourquoi s'intéresser à ces gardiens d'immeubles, ces gens qui ont une vie destinée à celle des autres ?
Parce qu'au fond, on ne les connaît pas.
Ouais.
C'est curieux, c'est un angle mort de la vie citadine, c'est un angle mort de l'urbanité en général. On ne les connaît pas. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours dans les appartements où j'ai habité, dans des immeubles, des gardiens à la fois modestes et sympathiques, très peu râleurs, et souvent qui sont, comme le dit très bien Lucia, qui aiment rendre service. Voilà, celui que j'ai en ce moment dans le quartier du 13e, là, je trouve qu'il est absolument formidable. Voilà. Donc c'est la première raison qui m'a amené à m'intéresser avec Aude à ce travail qu'on a mené pendant à peu près 4 mois quand même. Hein.
Cet éloge des loges, ces histoires vraies de gardiens et de gardiennes d'immeubles parisiens, ces récits sont magnifiques, Jean-Michel Dijan. Notamment celui d'Éric D. Il suffit d'une minorité de râleurs pour gâcher des initiatives sympas. Ni café, ni restaurant pour égayer la longue rue arborée qui longe ces barres d'immeubles sans âme de Vitry. Et pourtant, Éric est là, la cinquantaine, il ne fait guère attention aux pièges anti-cafards posés au pied des portes qui font face à sa loge, il se bat au quotidien. Ces histoires comme Éric D, il fallait les mettre en avant, Jean-Michel Dijan ?
Il fallait les mettre en avant parce qu'au fond, les gardiens, les gardiennes et les couples de gardiens et gardiennes ne sont pas connus. Dans un immeuble, si vous voulez qu'il y ait une âme, c'est-à-dire quelque chose où le corps et l'esprit se réunissent et activent une espèce de vie sociale, il faut un gardien, faut une gardienne. C'est les seuls qui connaissent les visages des gens qui sont dans les parfois 170 ou 200 logements. heureusement qu'ils sont là, ils participent à une régulation sociale, ils participent selon leur motivation, faire en sorte que les gens se passent, qu'on évite parfois la barbarie, c'est ça.
Et d'ailleurs, le récit, un autre joli récit dans ce livre, Éloge d'éloge, celui de Laurence G. Je suis en quelque sorte leur putting ball. Vous aussi, Lucia, vous êtes parfois le putting ball de vos habitants?
Oui, ça peut arriver. Bah, il suffit que leur journée n'était pas comme ils voulaient, de se prendre des mots pas gentils, parce que c'est peut-être la première personne qu'ils vont voir, et on n'est pas coupable, mais ils vont se défouler sur nous.
Pourquoi avoir choisi ce métier, Lucien ?
C'est vraiment le contact humain. Mmh. Et puis, il y a beaucoup de cultures. Ça aussi, la mixité, ça m'intéresse. C'est intéressant, c'est enrichissant.
Et pourtant, on ne connaît pas réellement le métier de gardien. Quelles sont vos missions au quotidien ?
Ils sont super. Ah vous savez, ce matin, il y a eu encore un locataire d'un immeuble. Il m'appelle pour me dire, première, l'ascenseur en panne. Deuxième, une personne qui dormait dans les escaliers. Ouais. Ça peut être commencé par le nettoyage des conteneurs, des parties communes. Mais si vous avez un appel comme ça, vous laissez tout et vous y allez. Parce qu'il faut trouver la solution.
Oui, et on peut dire aussi que vous connaissez la vie intime de vos résidents. Il y a notamment des gardiens et des gardiennes qui parfois sauvent des vies, des femmes victimes de violences conjugales, des femmes, des enfants victimes de violences intrafamiliales, Jean-Michel.
Absolument, oui. Mais c'est ce que dit Lucia correspond que partiellement à toutes les tâches que ces gens ont à faire. C'est à la fois une assistante sociale, un secouriste, une auxiliaire de vie, un électricien, un facteur, un animateur, un éboueur, un vigile, un flic. Je veux dire qu'on n'imagine pas la somme des petites compétences additionnées qui s'incarnent dans une personne comme le gardien ou la gardienne. Ouais. Vous n'imaginez pas la somme des tâches qui ne relèvent pas de la technicité qu'ils ont à faire.
Vous dites, Jean-Michel Dian, ils ont la clé. Et ils n'ont pas la clé uniquement de l'habitation, de l'appartement. Ils ont la clé de la vie d'un immeuble.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ils ont la clé. Et d'ailleurs, ils ont une loge pour ça qui sert un peu de confessionnal, qui sert à entendre quelques réprobations, régler quelques mini-conflits. Lucia ou Lionel ou d'autres pourraient le dire. Hein. La question de la drogue, les questions qu'on n'ose pas, qui sont tabous, c'est quand même une plaie quotidienne dans certains immeubles. Donc, il faut bien... On les gère. Et c'est pas forcément les institutions extérieures à l'immeuble qui les gèrent.
Lucia, Jean-Michel Dian parlait à l'instant de problèmes de drogue, de bagarres, de violences intrafamiliales. Parfois, vous participez à sauver des gens. Je l'expliquais il y a quelques secondes. Quel a été le moment le plus dur dans votre carrière, dans vos 26 ans de carrière de gardienne?
Ça peut être une famille, un divorce, et que les enfants, ils se trouvent au milieu de ce divorce. Et ça, c'est très dur parce que ça m'est arrivé, un couple qui sont séparés et les enfants, moi, j'ai accueilli un jeune homme chez moi pendant quelques temps.
Ouais.
Ça peut déraper, il y a eu des moments très, très, très compliqués. Moi, ça m'est arrivé d'aller chez elle à minuit, un week-end, parce que ça n'allait pas du tout et il fallait essayer que les choses n'y dérapent pas.
Jean-Michel, on est à la radio, on vous entend dire il y en a plein comme ça, il y en a plein.
Vrai, ouais.
Ça vous touche, en fait.
Mais c'est très touchant. Surtout qu'on n'en parle pas.
Et d'ailleurs, Lucia, vos habitants, les locataires de votre bâtiment, ils vous appellent leur soleil, leur lumière. Je trouve ça tellement magnifique.
C'est vrai. Beaucoup qui disent, si j'arrive chez eux et qu'on discute un petit peu, ils disent, ma journée, elle est illuminée grâce à vous. Vous êtes mon soleil, vous êtes ma lumière. Je rigole des fois, je me dis, c'est pour ça que je m'appelle Lucia, je suis Lucie, je suis la lumière.
Et d'ailleurs, vous avez également vécu de très, très, très belles histoires. Racontez-nous cette période où vous avez formé un sans domicile fixe.
Michel,
ouais.
Ça va rester gravé toute ma vie. Il dormait dans la rue et la seule solution qu'il avait pensé qu'il pouvait s'en sortir, c'était de devenir gardien parce qu'il aurait un logement. Et s'il aurait un logement, il aurait un travail parce que malheureusement, si vous n'avez pas de logement, c'est difficile d'avoir un travail. Si vous n'avez pas de travail, c'est difficile d'avoir un logement. Alors imaginez dans la situation où il se trouvait. La formation sur le terrain, des stages, moi j'ai accepté de le prendre. C'était une très belle expérience parce que c'était vraiment une personne courageuse, motivée, qui avait envie.
Et il y en a 3000 gardiens et gardiennes à Paris dans ces logements sociaux de la capitale, et des dizaines de milliers en France qu'il faut saluer, qu'il faut féliciter. Et si vous croisez Lucia, cette lumière exceptionnelle, un gant de velours dans une main de fer, le sourire en prime, voilà la présentation.
Vive Lucia.
Vive Lucia. Vous pouvez la croiser au pas de course vers le boulevard de Charonne à Paris. Merci Lucia, merci d'avoir participé à Focus Dimanche aujourd'hui. Merci Jean-Michel Dian d'avoir mis en avant ces personnages avec Aude de Tocqueville, cet éloge des loges aux éditions Autrement, ces histoires vraies de gardiennes et gardiens d'immeubles parisiens, cette profession si décriée mais pourtant inconnue, ignorée par les Français parfois. Dites-leur bonjour, voilà, quand vous les croisez, et surtout, merci Lucia.
Merci à vous.
Merci Jean-Michel d'avoir mis en avant ces portraits. C'était un plaisir de vous recevoir sur RTL dans Focus Dimanche. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche sur RTL. À bientôt. On l'appelle le grand maître des échecs français. Laurent Fraissinet est double champion de France et vice-champion d'Europe. Il entraîne désormais le numéro 1 mondial. Dans Focus Dimanche, il va vous conseiller pour remporter votre prochaine partie. Restez avec nous, bien évidemment, sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
13h, 14h.
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Les échecs, c'est sa vie. Laurent Fraissinet est double champion de France et vice-champion d'Europe. À 41 ans, il entraîne Magnus Carlsen, le quintuple champion du monde et le numéro 1 mondial d'échecs depuis 10 ans. Laurent Fraissinet est mon invité dans Focus Dimanche en studio. Bonjour Laurent.
Bonjour Mohamed.
Laurent, ça vient d'où la passion des échecs ?
Alors moi, c'est que j'ai commencé complètement par hasard quand j'avais 8 ans. Et voilà, ça a pris. J'aimais beaucoup le tennis, j'ai commencé en même temps que le tennis, mais je me suis aperçu assez rapidement que je gagnais beaucoup plus souvent aux échecs qu'au tennis. Et donc, mon côté compétiteur a pris le pas. Et voilà, j'ai continué. J'ai été vice-champion du monde des moins de 14 ans. Et voilà, là, j'ai compris que ça allait devenir une profession passion, parce que ça restait avant tout, et ça reste toujours avant tout ma passion.
C'est votre grand-père qui vous a transmis cette passion, la fibre des échecs ?
Voilà, tout à fait. On a commencé, on jouait aux dames. Enfin, il m'a transmis la fibre de la stratégie. Voilà, il trouvait que j'avais un bon sens du jeu en général. Et donc voilà, je suis allé aux échecs parce que mes parents trouvaient que ça ressemblait. Il y avait pas de, je viens de province, et donc il y avait pas de club de dames à Dax. Et donc je suis allé au club d'échecs.
Et à 18 ans, vous décidez d'en faire votre profession. C'était il y a 23 ans. Il y a 23 ans, les échecs c'est pas professionnel en France. Et on décide pourtant d'en faire sa profession. C'est assez étrange.
Oui, c'est assez étrange, mais j'aimais...
Non, mais certains doivent préférer se diriger vers le football, vers le rugby. À Dax, il y a quand même le rugby. Ah, ouais, et vous dites non, c'est les échecs.
Bah oui, c'était là où j'étais le plus doué. C'était vraiment ma passion. Et donc, ça me permettait de voyager à travers le monde, de rencontrer beaucoup de personnes différentes, une liberté assez incroyable et évidemment faire ce que j'aimais. Donc en fait, c'est venu naturellement et aussi de gagner ma vie, évidemment. Donc ça comptait aussi, même si c'est pas Mbappé. Mais voilà, ça me permettait de gagner ma vie et donc j'ai décidé. En fait, c'était même pas une décision, c'était une évidence.
Les gens qui nous écoutent aujourd'hui en ce dimanche sur RTL dans Focus Dimanche doivent se dire, ah, pour jouer aux échecs, faut être très très bon en mathématiques. C'est un peu le cliché qu'on a toujours entendu dans l'enfance. Il faut être bon en maths pour jouer aux échecs, c'est vrai ?
Non, pas forcément. Ah. Alors effectivement,
j'aurais dû me lancer dans les échecs alors.
C'est un jeu de calcul, mais c'est aussi très compliqué. Vous voyez, dès les premiers coups, personne n'arrive à tout calculer jusqu'au bout. Donc c'est beaucoup un jeu basé sur l'intuition. Très souvent, on voit une position. Alors peut-être vous allez calculer, je sais pas quel est votre niveau, mais vous allez calculer un ou deux coups en avance.
Pas très bon.
Ouais, mais moi je vais calculer 7 ou 8, mais au final je vais pas voir jusqu'au bout, jusqu'à l'échec et mat, jusqu'à la fin de la partie. Donc je vais être obligé à un moment de baser mon choix sur l'intuition et la position que je vois, et finalement je vais me dire ce coup est meilleur que celui-là. Donc il faut un peu de patience, un minimum, hein, voilà, être capable de se concentrer. Mais ça s'apprend en fait, et c'est pour ça que je trouve ça finalement très bien, que ça commence à intégrer beaucoup l'école. Voilà, par exemple, il y a un programme, la fédération met en place un programme classe échec, et c'est dans 2000 écoles, voilà, où les professeurs, même eux-mêmes, les instituteurs, peuvent former les élèves. Donc concentration, patience, mémoire, prise de décision. Je crois que finalement, les échecs sont un formidable support pour faire de nos enfants des citoyens. Et c'est extrêmement inclusif parce que tous les milieux, moi j'ai rencontré...
Ouais, c'est génial ce que vous dites là. Ça apporte des valeurs. D'ailleurs, vous dites, les échecs m'ont changé la vie. Ça apporte des valeurs. C'est important de l'enseigner à l'école parce que ça peut changer la vie d'un gamin, notamment sur l'inclusion. Vous parlez de rencontres.
Tout peut se passer. Il y a des évaluations qui ont été faites. Et donc, voilà, des enfants en échec scolaire qui ont fait des progrès. Et grâce à ça, ils ont réussi à, finalement, ils ont vu qu'ils battaient le premier de la classe aux échecs parce que, voilà, c'est différent. Ça reste un jeu et ça demande des capacités différentes que d'être bon aux échecs. Et c'est tellement inclusif que récemment, je suis devenu l'ambassadeur d'un programme qui est Infinite Autisme. Et donc, ça va être, à partir du mois de septembre, dans 25 centres en France. On va enseigner ça à des enfants autistes. Voilà, ça permet aussi, c'est un langage universel.
Ouais.
C'est-à-dire que si on va jouer une partie, même si on ne se parle pas, ben on aura partagé quelque chose.
Ce qui est intéressant, notamment dans votre carrière, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes prof, vous enseignez les échecs, mais vous faites aussi, vous participez à des streams. Alors les streams, c'est sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous montrez des parties d'échecs, vous expliquez vos techniques. C'est important que les échecs deviennent un petit peu plus universel, même si c'est le cas aujourd'hui par rapport à il y a une vingtaine d'années. On sait, on entendait aussi ce cliché, il y avait les maths d'à côté et il y avait ah, les échecs, c'est pour les gens riches, c'est pour les bourgeois ou c'est pour les gens très très intelligents, c'est pas donné à tout le monde. C'est faux.
C'est faux, c'est exactement faux. Et effectivement, moi j'adore transmettre. Alors c'est vrai que là, finalement, on pourrait se dire, oui, joueur de haut niveau d'échecs, ça peut durer toute la vie. Eh bien non, parce que faut tenir l'attention, la concentration baisse. Moi je vois, les parties peuvent durer très longtemps, hein, donc ça peut durer 6-7 heures.
Ouais.
Donc je vois, à partir d'un moment, la concentration baisse, après 4 heures de jeu, par exemple, dans mon cas. Donc c'est vrai que je fais un peu tout, j'essaie encore de jouer. J'adore la compétition, mais la compétition même de moins en moins. Donc voilà, les résultats baissent. Et donc voilà, j'ai transmis ça et j'ai commencé ces streams juste avant la période Covid et le confinement. Et c'est vrai pendant le confinement, ça a bien pris parce que les gens étaient chez eux, ils avaient rien d'autre à faire. Et tout le monde s'est à peu près joué aux échecs. Et voilà, et donc il y a eu un engouement envers les échecs. Et donc voilà, moi j'adore faire ça et essayer de le transmettre au plus grand nombre en montrant que finalement les règles, alors oui, effectivement, c'est pas la bataille, hein, on va pas apprendre ça en 2 secondes, mais c'est pas non plus des heures et des heures pour apprendre les règles du jeu.
Il faut l'enseigner à l'école, il faut que ça soit dans
voilà.
Toutes les écoles.
Et on sait que les enfants ils apprennent plus vite ouais. Que nous, hein, donc ils apprennent les règles très très rapidement et on est surpris. On verra peut-être qu'il y aura des enfants de ces écoles qui seront des grands joueurs, mais finalement c'est ouais. Pas le but. Le but, c'est de les former en tant que futurs citoyens, voilà, de les apprendre à se concentrer. Je sais, moi, j'ai des enfants, c'est la guerre pour pas qu'ils regardent des iPads et tout ça, voilà, parce que c'est facile maintenant.
Ils jouent aux échecs ?
Alors, elles ont commencé, mais ça leur a pas plu. Donc, moi, on m'a toujours laissé faire. On m'a toujours laissé faire dans mes activités et on m'a toujours laissé décider. Donc, je les ai laissé décider. Leur maman est aussi joueuse professionnelle d'échecs. Donc, ça commençait à faire beaucoup pour les enfants. Je pense que l'ascendance était trop dur à assumer.
Moi, j'ai une énorme question pour vous, Laurent Fraissinet. Les auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, les auditeurs doivent se poser la même question que moi. Comment faire pour rester concentré pendant 2-3 jours? Il y a des parties, des finales de championnat du monde qui durent 2-3-4 jours. Il y a eu les championnats du monde là ces dernières heures. Comment on reste concentré alors que moi, je ne peux pas dépasser une heure de concentration?
Mais ça, c'est parce que vous partez du postulat que vous ne pouvez pas le faire.
Ah ouais,
mais on peut tout. On peut. Et c'est à force d'entraînement. Alors au début, ça ne sera pas facile. C'est comme pour courir. Si vous voulez courir le marathon demain, eh bien, vous n'allez pas y aller comme ça tout de suite. Vous allez faire 2 km et puis 5 et puis 10. Et voilà, et on s'améliore petit à petit. Mais il faut partir du postulat. Tout est possible pour tout le monde.
Et vous conseillez aujourd'hui Magnus Carlsen, le quintuple champion du monde qui est numéro 1 mondial depuis 10 ans. Pourquoi c'est un personnage à part?
Bah parce qu'il écrase la concurrence depuis 10 ans et dans n'importe quelle activité, discipline, sport. Bah c'est très très rare, hein, les gens qui arrivent à tout gagner comme ça, qui sont toujours là au bon moment, qui marquent des triplés en finale de Coupe du Monde. Enfin voilà, au moment clé, il est toujours là et il domine ses adversaires. Alors il n'y a pas forcément un si gros écart technique, mais au niveau du... il est là quand même, hein, mais au niveau du mental, il est incroyable, toujours dans les moments décisifs. Et ça, je crois que c'est la marque des très grands champions, dans les moments décisifs. Eh bien, il est assez incroyable pour ça. Et effectivement, sa carrière n'est pas terminée. Et donc, on verra dans les 5-10 prochaines années s'il arrive à maintenir ce niveau, parce qu'il a quand même 32 ans, donc ça va,
ouais.
ça va finir par... Il y a un moment où ça s'arrête toujours. Hein. S'il continue pendant 5 ans, ça sera vraiment le plus grand joueur d'histoire.
Merci beaucoup, Laurent Fraissinet. C'était un plaisir de vous recevoir dans Focus Dimanche. Une très belle histoire. Et on espère qu'avec Magnus Carlsen, vous serez encore de longues années champion du monde. À bientôt, Laurent Fraissinet.
Merci.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque dimanche sur RTL et je vous en remercie. Vous le savez, Focus Dimanche, c'est votre émission, l'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité tous les dimanches à 13h sur RTL. Et tous les jours sur l'application RTL, ne ratez pas le podcast Focus qui décrypte une information. Tout de suite, vous retrouvez Olivier Marchal dans le Bon Dimanche Show avec Bruno Guillon. RTL, il est 14h.